Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Nous sommes en direct ce soir et nous allons voyager au-delà de la vie. Qu'y a-t-il après la mort ? Personne ne le sait, on ne peut que croire. Mais pourquoi les forces de l'esprit, les fantômes ou les revenants nous passionnent-ils autant? Peut-on entrer en communication avec eux? Et que se passe-t-il lorsque la littérature, mais aussi la science, s'intéresse à ces phénomènes? Le surnaturel, la transe, la psychanalyse, les neurosciences, la littérature bien sûr. Allez, laissez-vous emporter ce soir dans des territoires inconnus et posons la question de la vie. Après la mort, c'est le programme de cette grande librairie. Bonsoir Philippe Charlier.
Bonsoir.
Philippe Charlier, vous êtes médecin, mais aussi médecin légiste, mais également archéo-anthropologue. Votre spécialité consiste à faire parler les morts, comme on dit, plus exactement, à étudier les restes humains les plus anciens, les momies. Alors je rappelle que vos travaux portent sur l'étude des restes de Richard Cœur de Lion, de la tête présumée de Henri IV, sur les reliques, vraies ou fausses, hein, de Jeanne d'Arc ou de Saint-Louis, sur les enfants de Toutankhamon également, enfin, il y en a énormément. Cette fois-ci, ce n'est pas dans le passé que vous nous emmenez, hein, c'est dans l'au-delà que vous nous entraînez avec ce livre « Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel ». C'est une enquête assez inédite, on va en parler. Une invitation aussi à voyager, à rencontrer ceux qui croient aux fantômes, ceux qui n'y croient pas du tout, et puis ceux qui cherchent la vérité. Bonsoir Corinne Sombrin.
Bonsoir.
Alors vous, vous êtes passé à peu près par les trois états, en réalité.
À peu près, oui.
Vous êtes ethnomusicologue. Vous disposez de la capacité à entrer en transe par la seule volonté. Là, vous allez nous expliquer très précisément comment vous y êtes arrivé. Mais c'est auprès des chamans de Mongolie que vous avez été initié il y a maintenant une vingtaine d'années. Et vous participez alors très activement depuis à des recherches scientifiques sur les états modifiés de conscience. Votre nouveau livre s'intitule « La diagonale de la joie » et il raconte précisément votre combat pour faire étudier la transe comme discipline à part entière. Alors, un médecin qui fait parler les morts, une musicologue spécialiste de la transe. Bah, il nous manque un psychanalyste devenu romancier. Bonsoir Philippe Grimbert.
Voilà. Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir. Vous êtes l'auteur d'un roman qui fut un immense succès, très mérité il y a quelques années, Un secret. Voici maintenant un court roman très dense autour de ce désir de communiquer avec nos chers disparus. Les morts ne nous aiment plus, c'est le titre. Quand la technologie permet de revisiter le mythe d'Orphée. C'est un roman qui pourrait bien un jour devenir une réalité et plus simplement un produit de l'imagination. Et puis je vous proposerai dans un instant un entretien avec le généticien Axel Kahn. Il publie un nouveau livre et le bien dans tout ça. Et il a annoncé il y a un mois qu'il était atteint d'un cancer dont il ne guérirait pas. Il a souhaité s'exprimer et témoigner à travers ce qu'il appelle la chronique apaisée de la fin d'un itinéraire de vie. Tous vos livres, ce soir, explorent notre fascination, mais aussi notre scepticisme, hein, parfois face à l'invisible, à l'au-delà, à notre besoin de croire qu'un dialogue avec les morts est possible, sous une forme ou sous une autre. Et vos approches me semblent tout de même à la fois complémentaires, novatrices et parfois un tout petit peu antagonistes. On va y venir. Première question. Pour quelles raisons, pourquoi avons-nous tant besoin d'expliquer l'inexplicable? Est-ce que c'est le propre d'une société en crise, crise de valeurs? Ou est-ce que c'est le propre de toute civilisation? Philippe Charlier.
Je pense que c'est vraiment le propre de toute civilisation, de tout être humain, d'essayer de comprendre, notamment d'essayer de borner l'inconnu. L'inconnu, c'est quoi? C'est la mort, la maladie et le lendemain. On ne sait pas quand on va mourir, on ne sait pas quand on va être malade, ni même si on va guérir, et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc pour essayer d'organiser ce chaos, eh bien on va développer énormément de théories, on va faire beaucoup d'expérimentations, et puis parfois eh bien on aura des confirmations, des vérifications. Je pense que cette curiosité, c'est le propre de l'homme.
Est-ce que c'est de la curiosité, Corinne Sombrin, ou un palliatif? Parce qu'on peut aussi entendre dans ce que vient de dire Philippe Charlier, un palliatif pour essayer de comprendre, de ne pas être seul face à l'angoisse.
Je crois qu'on a tellement développé notre intelligence analytique qu'on a pris l'habitude de tout contrôler. Et il y a deux choses qu'on ne contrôle pas encore, c'est la vieillesse et la mort. Voilà. Et alors ça, c'est vraiment insupportable pour les Occidentaux aujourd'hui. Et je vais citer une phrase de Kierkegaard que j'aime beaucoup, qui dit que le paradoxe de la pensée, c'est de vouloir découvrir ce qu'elle ne peut penser. Et c'est aussi la beauté de l'humain qui essaie de comprendre toujours, d'essayer d'aller plus loin. Et donc c'est à la fois fascinant et désespérant.
Philippe Grimbert, si j'interroge le psychanalyste sur cette question.
Nous vivons au milieu des mystères depuis toujours. Quelque chose qui nous dépasse en permanence, que ce soit l'univers, quand on n'avait pas les moyens d'explorer, que ce soit la notion même d'être humain, de langage, le rapport aux autres. Je crois que nous avons, face à ce mystère, un vertige qui nous amène à tenter de le border, à trouver quelque chose qui fasse un rempart contre ce précipice. Là, c'est en ce qui concerne, je dirais, carrément la vie, l'humanité, la cosmologie. Mais aujourd'hui encore, nous vivons au milieu d'un monde magique. Je ne sais pas comment fonctionne le téléphone dont je me sers. Mm-hmm. Je ne sais pas comment, en Chine, quelqu'un peut m'appeler et comment un satellite va me trouver au milieu d'une foule immense. C'est un mystère, c'est une magie totale. Donc, c'est un curieux mélange. Besoin de savoir et puis parfois jouissance d'être dans la magie.
Est-ce qu'il est possible de ne pas chercher à interroger le sens de la mort, le sens de la vie par ricochet, de ne pas chercher non plus à interroger, de ne pas s'intéresser à ce qu'il y a au-delà. On est aussi dans une société qui, en ce moment, a une certaine tendance à vouloir se divertir plutôt qu'à poser ces grandes questions.
Déjà, vous opposez la vie et la mort. Et je ne suis pas certain que ça soit la bonne chose. J'opposerai la mort à la naissance. Mais je dirais, dans une vision ethnologique et globale, que la vie est toujours là. Quand quelqu'un meurt, la vie est toujours là, elle se transfère, elle devient autre, elle change d'état. Mais pour moi, la mort ne s'oppose pas à la vie, elle s'oppose à la naissance.
Et pour vous, Corinne Sombrin, la mort est une fin, un passage ?
Un passage, un passage. Comme la naissance. Pour moi, c'est un passage.
C'est ça.
Voilà.
Philippe Grimbert.
J'ai parfois envie de dire que nous avons été morts beaucoup plus longtemps que vivants, nous, individuellement. Nous venons du néant et nous nous posons toujours la question de savoir ce qu'il y a après. Nous le savons, c'est ce qu'il y avait avant.
Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait une vie après la mort, mais il y en a une, en tout cas, avant de mourir, et celle-là, il ne faudrait peut-être pas la rater.
Ça, c'est sûr. C'est sûr, mais c'est une parenthèse dans une espèce de néant absolu. C'est très troublant de se dire que les enfants, parfois, peuvent le comprendre plus facilement que nous l'oublions assez facilement. Mais qu'est-ce qu'il y a après la mort ? C'est une vraie question, mais elle peut s'expliquer peut-être aux enfants en disant la même chose qu'il y a eu avant ta naissance.
On est peut-être tous des grands-enfants face à la mort, alors voici une explication. Et si la mort, loin d'être un événement banal en réalité, désignait notre ultime liberté ? C'est ce que montre en ce moment Axel Kahn. Le généticien, qui est président désormais honoraire de la Ligue contre le cancer, a annoncé le mois dernier qu'il était atteint d'un cancer et qu'il ne pourra pas le vaincre. Alors parce qu'il est aussi écrivain, Axel Kahn a choisi de tenir sur son blog, chaque jour, tous les jours, la chronique apaisée de la fin d'un itinéraire de vie. Ce sont des textes qui relèvent, me semble-t-il, à la fois de la littérature et du récit d'une expérience unique, le chemin qui mène un malade vers la mort inéluctable, prochaine, très prochaine. Il a souhaité témoigner dans cette émission et j'ai été à sa rencontre car il est ce soir dans l'incapacité, hélas, d'être présent sur ce plateau pour évoquer son dernier livre et le bien dans tout cela et puis cette remarquable chronique apaisée de la fin d'un itinéraire de vie qu'on peut lire sur son blog. Voici notre entretien, enregistré il y a quelques jours.
Bonjour Axel Kahn.
Bonjour François Budel.
Merci de nous accueillir chez vous pour évoquer à la fois votre dernier livre, mais aussi cette chronique d'une fin de vie apaisée que vous tenez au jour le jour et qui est un remarquable exercice à la fois de style, peut-être aussi de vie. Est-ce que c'est le mot que l'on peut employer, vie ?
C'est un exercice de vie, mais tous mes livres précédents sont des exercices de vie. Je l'ai fait parce qu'il me semblait que c'était original, et pour une autre raison, je vais vous dire, François Budel. J'en ai d'ailleurs l'insigne là, le président de la Ligue, maintenant le président honoraire de la Ligue nationale contre le cancer. Et pour les personnes qui sont malades du cancer, en gros, ils guérissent ou bien ils ne guérissent pas. Et il ne vous a pas échappé que l'on mourait encore parfois de la maladie cancéreuse. Et ma foi, c'est ce qui m'arrive, il se trouve. Et la perspective de la guérison, elle est glorieuse. La perspective de la non-guérison, on préfère n'en pas trop parler. Et je voulais témoigner de ce que, même si la guérison n'était pas au bout du chemin, ça valait la peine d'essayer de valoriser autant que le pouvait les bribes de vie de la vie qui restait à connaître.
Oui, vous menez une expérience quasi scientifique, littéraire également, mais émotionnellement, comment la traversez-vous? Car c'est une chose d'écrire sur la mort lorsque l'on est généticien, cancérologue, lorsqu'on la fréquente, comme vous l'avez fait pendant des années au quotidien, et c'en est une autre, j'imagine, lorsque l'on sait que le rideau va tomber, pour reprendre votre expression.
Alors là, non. Je suis d'une totale impavidité par rapport à la mort. Elle m'indiffère totalement. D'ailleurs, en gros, elle n'existe pas.
Comment ça, elle n'existe pas?
Non, ce qui existe, c'est la vie qui s'interrompt. Mais la mort, en tant que telle, pour un agnostique comme moi, ça n'est pas plus que la fin de la vie.
Et croyez-vous qu'il y a quelque chose après la mort?
Je n'en fais point l'hypothèse. Je n'en fais point l'hypothèse, c'est-à-dire que dans la totalité des actions que j'ai décidé de mener dans cette période où la vie sera brève et où j'ai décidé de m'en saisir à bras-le-corps, c'est-à-dire de la rendre la plus intéressante possible, parfois la plus utile possible. Ça n'est jamais que de la vie que je parle. Je ne parle jamais que de la mort en tant que le rideau qui se baisse. La mort est un non-phénomène. C'est un non-événement. Et par ailleurs, pour ce qui me concerne, elle m'indiffère totalement.
Vous avez intitulé cette chronique d'une fin de vie, chronique d'une fin de vie apaisée. J'aimerais que nous revenions sur ce mot, le choix de ce mot, apaisé. Qu'est-ce que l'apaisement?
L'apaisement, d'abord, se définit par le contraste avec toutes les fins de vie qui ne sont pas apaisées. Il y a énormément de personnes qui sont terrorisées par l'idée de la mort. Terrorisées. Une fin de vie apaisée est une fin de vie qui ne peut pas nier la mort, qui, dans mon cas, ne fait nullement l'hypothèse de l'existence d'une autre forme d'Axel Kahn après la mort, puisque la mort d'Axel Kahn, ce sera la fin d'Axel Kahn, et qui le vit dans la sérénité. Et donc, la fin de vie apaisée, en ce qui me concerne, c'est cela.
Vous avez beaucoup écrit sur la philosophie. Vous vous êtes intéressé à un humanisme engagé. Ça correspond à vos livres, à vos actions, à votre chemin de pensée. Diriez-vous que la perspective de la mort doit être pensée, doit être mieux enseignée, doit être prise en compte lorsque l'on vit?
Je ne pense pas cela, je pense l'inverse. Je pense que ce qui doit être enseigné vraiment, c'est la perspective de la vie. La seule chose à laquelle il faille s'entraîner, c'est de vivre dans l'urgence le mieux possible, d'essayer de concentrer les moments où l'on peut connaître le bonheur, la joie, alors même que la mort est proche. La mort, sinon en tant que telle, n'a rien à nous apprendre. On n'a rien à apprendre sur la mort, on a à apprendre sur les moyens de l'éviter, mais rien à apprendre sur la mort.
Vous avez employé tout à l'heure le mot qui peut-être définit le mieux votre parcours, action. Comme si l'action devait être ce qui guide, peut-être donne un sens à une vie. Quel fut le sens de votre vie?
Dans plusieurs livres, j'ai affirmé une conviction profonde. On est ce que l'on fait. Un saint qui se conduit comme un salaud est un salaud. C'est aussi simple que cela. Et de cette observation, on aboutit immédiatement à la réponse qui s'impose à votre question. Seule l'action importe. En tout cas, seule l'action vis-à-vis des autres. Un type bien n'est jamais le type qui considère qu'il est bien. Ça, c'est un peu stupide, ridicule. Un type bien est un type qui, pour différentes raisons, est considéré comme étant bien par les autres, bien parce qu'il les a enrichis, parce qu'il les a amusés, parce qu'il les a soignés, parce qu'il leur a donné de la matière à penser, etc., etc. Mais ce que l'on cherche dans un type bien, c'est l'action du type bien dont on profitera. De la même manière, j'espère être un type bien de cette manière-là. Et j'ai demandé que sur ma tombe, à un moment donné, l'on écrivit, un peu comme Maxime, Axel Kahn était un type bien. Et dans cette optique-là, qui résume tout, sois raisonnable et humain, m'a enjoint mon père. Comment voudriez-vous que je ne m'intéresse à ce point à l'humain ?
Mais votre père vous a donné cette recommandation au moment où il a choisi.
Lui, il a choisi de mourir. Voilà, il a choisi de mourir et il a écrit ces quelques mots, j'imagine 3-4 minutes avant de mourir. Il s'est jeté d'un train. Tué, sans doute Axel, le plus capable de faire durement les choses nécessaires, soit raisonnable et humain. Donc, je m'intéresse à l'humain. Et que vous dis-je là ? Je vous dis qu'il n'y a pas d'humain sans la capacité de ressentir la beauté. D'ailleurs, d'un point de vue anthropologique, ontologique, on voit apparaître la différenciation des premiers homos en homo sapiens lorsque se développe leur aptitude à ressentir la beauté. Deuxièmement, l'humanité, c'est le choix. Et tout homme a la capacité d'agir au profit des autres, faire le bien, ou bien d'agir à leur détriment, faire le mal. Et toute la vie morale consiste à essayer de trancher, d'orienter l'équilibre plutôt en faveur du bien. Mais le bien n'est pas réductible au beau. Et donc, il n'y a pas d'humanité sans que persiste au bois la perspective du bien. Il n'y a pas d'humanité sans que existe cette sensibilité à la beauté. Mais la sensibilité à la beauté est loin d'être suffisante.
Vous signez ces chroniques d'un nouveau nom. Non plus Axel Kahn, mais Axel le Loup. Il y a dans le Loup, bien évidemment, cette référence au poème d'Alfred de Vigny.
J'ai dit que mon totem, pour ces dernières semaines, derniers mois de ma vie, c'était le loup de Vigny. Quelle est la caractéristique du loup de Vigny ? De ce qui lui importe, et qu'est-ce qui lui importe ? C'est de défendre les siens, de défendre sa nature. On va rentrer dans Spinoza. Qu'est-ce que c'est, en quelque sorte, que le bonheur, c'est d'exprimer sa nature. La nature du loup est de défendre les louveteaux et de défendre les louves, de n'avoir pas peur des couteaux des chasseurs. Il le fait, il exprime sa nature. Et de même, ma nature est d'avoir des engagements. J'étais, et je suis encore, à titre de président honoraire, président d'une très grande association dans le domaine du cancer. Je ne desserre pas les mâchoires de ce combat-là. Le cancer n'a à attendre de ma part aucune mansuétude. Aucune mansuétude. Il n'y a que quand, transposé dans le domaine du loup, le loup sera amené à desserrer les mâchoires parce que les forces et le sol lui manqueront, qu'Axel le loup déchirera les mâchoires.
Est-ce une façon de tenir à distance l'auto-apitoiement, sur lequel vous avez d'ailleurs écrit dans d'autres livres beaucoup, cette tentation que parfois nous avons, contre laquelle vous avez marché, au sens propre comme au sens figuré. Je me souviens de votre beau livre sur les randonnées, qui était aussi une façon de se dépouiller de toutes ces pensées parasites.
Vous avez raison. L'auto-apitoiement est à combattre parce qu'il est une facilité. Il est un pathos, c'est-à-dire il est la création d'une atmosphère d'esprit qui empêche l'esprit de fulgurer comme il pourrait le faire, qui l'empêche d'aller au bout de ses analyses. On ne vit pas sans émotion, mais l'émotion mal placée, l'émotion face au pathos est une émotion artificielle. Cela, je le combats, peut-être que je puis moi-même y tomber, y succomber. J'y ai succombé, je me rappelle. Que voulez-vous ? J'écris des fois des lignes, et c'est très dangereux ça. J'écris des lignes qui me font pleurer moi-même. Et ça, à ce moment-là, j'ai dit danger. Il faut que je fasse attention. C'est tellement facile de faire pleurer Margot. C'est tellement facile. Si on est un homme un peu exigeant par rapport à soi-même, on essaye d'éviter ces facilités-là.
Gémir, pleurer, prier est également lâche.
Voilà, ça c'est le loup de Vigny.
Écrivait Vigny. Nous voyons tous de quelle façon vous placez le bien, le beau, c'est l'action au cœur de ce combat. Mais la souffrance tout de même, ceux qui nous regardent peut-être voudraient trouver votre force et une souffrance physique les en empêche. Que faire dans ce cas?
D'abord que les choses soient claires. J'ai cessé de faire l'hypothèse du bon Dieu pour ce qui me concerne. Cela fait très longtemps. J'étais très croyant, intéressé par la prêtrise, jusqu'à l'âge de 15 ans. Mais comme ça arrive parfois, dit-on, l'expérience d'une école de jésuites m'a fait perdre la foi. Et depuis, je ne l'ai jamais retrouvée. Je n'ai pas de force particulière qui en vient. Je ne m'en enorgueillis pas. Cela étant dit, que voulez-vous que je fasse, François Bunel? Il faut que je vive avec. Je vis avec le fait que j'ai parfois une immense admiration pour les personnes qui ont la foi. L'une des femmes que j'admire le plus dans ma vie est une religieuse, Sœur Simone, et je serais presque d'accord avec elle lorsqu'elle considère qu'elle a un petit avantage sur moi, c'est qu'elle, elle a la foi et moi je ne l'ai pas. Mais que voulez-vous que je vous dise, Sœur Simone, c'est comme ça, c'est une difficulté, c'est un obstacle, c'est un parcours d'obstacles, je me fais fort de le surmonter.
Qu'est-ce que la lecture, notamment la poésie, le roman, la philosophie, vous a appris et vous a permis précisément en ce moment où vous traversez cette expérience de la maladie qui mène inéluctablement à la disparition?
Alors, factuellement, on va dire ce qui se passe. Pas grand-chose pour ce que je lis, parce que je suis sous de fortes doses de morphine et d'opium, et j'ai la lecture d'un opiumane. C'est-à-dire, je lis deux lignes, je m'endors, et quand je suis réveillé, je mets un certain temps avant que de retrouver les deux lignes sur lesquelles je me suis arrêté. Il n'empêche qu'il y a des livres qui m'ont profondément marqué. Pour moi, la vraie littérature est une littérature flamboyante. C'est la description par Camus du coucher de soleil sous les murailles d'Oran en quarantaine pour la peste. C'est sous le volcan que je considère pour ma part comme l'un des plus beaux romans du XXe siècle. Un livre comme Sous le volcan est particulier car lui est énormément focalisé sur la flamboyance. À la limite, il pourrait être considéré comme un exercice de style de la flamboyance. Mais je suis également très intéressé par le conflit intime du vieux consul alcoolique. Ben voilà, il arrive à faire en sorte, dans ce livre exceptionnel, qu'il y a plus que cela.
Avez-vous des regrets?
Oui, j'en ai sans doute. Ce serait totalement manquer de la plus élémentaire des humilités de prétendre que j'ai tout réussi, que j'ai une vie magnifique, d'une vantardise indigne. Mais il se trouve qu'il y a peu d'épisodes de ma vie que j'ai regretté d'avoir vécu. Très peu. Et que, en gros, j'ai aimé les différents épisodes de ma vie. Évidemment, le suicide de mon père a été épouvantable. Ça a été un drame d'une violence inouïe. Mais quand on regarde dans toutes les vies, il y a des drames qui sont épouvantables. Dans mon cas, c'est un drame épouvantable qui a aussi été particulièrement positif. Lorsque mon père me dit « Tu es sans doute, Axel, le plus capable de faire durement les choses nécessaires, sois raisonnable et humain », il me tend le bout du fil d'Ariane. Je ne serais pas le même homme si je ne m'étais demandé dans ce que je fais là, dans la décision importante que j'ai à prendre là, est-ce que Jean Kahn considérerait que j'ai bien tenu le fil d'Ariane et que je me comporte comme un chic type, que j'agis de manière raisonnable et humaine.
Comme un type bien.
Comme un type bien, voilà.
Le fait que votre père ait décidé de se suicider lorsque vous aviez 26 ans vous a privé de moments de complicité, j'imagine, mais aussi de grandes discussions que le Axel Kahn de 36 ans, 46 ans, 56 ans aurait pu mener avec lui.
Un jour que je marchais sur le GR Corse, j'ai été pris d'un désespoir immense. Et ce qui avait créé ce désespoir était que sur cette crête des statues, c'est son nom, par ces matinées cristallines du mois de juillet méditerranéen en Corse, les montagnes, la roche, les porphyres à certains endroits, et puis naturellement les golfs, c'était une beauté indescriptible. Et je me suis dit, moi je vis cela et papa ne pourra pas le vivre. Et ça s'est transformé en, je ne verrai pas vieillir mon père. Et cela s'est transformé en, vous voyez, de fil en aiguille. Un jour, j'ai dit à une femme dont j'étais amoureux, quelque chose qui peut sembler ridicule et qui a pu lui sembler ridicule, mais qui, moi, encore aujourd'hui, correspond au plus beau cri, à la plus belle déclaration d'amour que j'ai jamais faite. J'aimerais vieillir avec toi. Je crois que dans ce qui se passe, de la rencontre, de la richesse, de l'expérience, de la préparation aux réactions de l'autre, d'une certaine communion, il peut se passer des choses magnifiques, des choses magnifiques.
Merci, Axel Kahn, pour la beauté et pour le type bien.
Au revoir, François Bunet.
Philippe Charlier, vous connaissiez ?
Oui, j'ai eu la chance de connaître Axel Kahn, parce que je l'avais interrogé quand je faisais ma thèse d'éthique à Paris Descartes, où évidemment il avait été doyen. Et j'avais déjà fait le diagnostic d'un type bien et d'un très très grand humaniste. Vous avez les généticiens qui sont des scientifiques purs et durs, des sciences fondamentales. Il a une carte en plus qui est celui d'un humaniste, d'un esprit totalement ouvert. Mmh. Et les quelques heures que j'ai pu passer avec lui ont considérablement enrichi. On travaillait sur le concept de, c'est dans le thème de ce soir, est-ce qu'un corps mort est simplement une entité inerte ou est-ce qu'on peut lui donner un épithète qui est celui de patient ? Est-ce que ça reste un patient quand on est un médecin qui travaille sur ce corps mort ? Là, c'est le médecin légiste qui parle. Et on est arrivé à cette idée que oui, il y a une respectabilité. On peut évidemment faire de la recherche dessus, mais il y a une respectabilité du corps mort. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est toujours un patient, au sens de... On lui doit un respect, c'est plus que de la chair froide, pour prendre un terme vraiment excessif, bien entendu. Et le testament philosophique qu'il vous a livré et qu'il nous a livré est vraiment un très bel enseignement, je trouve.
Corinne Sombrin, je vous ai vu très émue en écoutant Axel Kahn, alors que vous ne partagez pas tous ses points de vue, notamment celui de l'agnostique, dont il dit qu'il a longtemps été, peut-être même toujours,
mais
semble-t-il.
Je ne suis pas du tout, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit.
L'idée que la mort est une fin.
Non, il dit que la mort n'est pas une fin, il a dit. Mais pour moi, la mort n'est pas une fin non plus, c'est vraiment une transformation. Et j'ai pu avoir des expériences de vie qui me montrent que Philippe Charrier, par exemple, et Axel Kahn ont bien perçu que le mort n'est pas tout à fait mort. Il y a quelque chose qui reste. Et particulièrement dans les expériences de transe, évidemment, bon, on passe de l'autre côté, on passe dans l'invisible. Dans les expériences de transe, il nous arrive bien sûr de voir des présences, de voir que voilà, on a formé un médecin en soins palliatifs à la transe. Elle voulait comprendre si quand elle était dans ces états-là, elle pouvait avoir accès plus facilement à un patient qui parle plus, qui est douloureux. Et elle pouvait obtenir des informations qui semblaient être plus intéressantes. Donc c'est dans ce but-là qu'on l'a formée à la transe. Et un jour, elle m'appelle, la personne qu'elle suivait est décédée. Et il y a un peu de panique dans sa voix quand elle me dit « Tu sais, la personne, elle est partie, dont je m'occupais, dont je t'ai parlé, mais elle est à côté de moi. Qu'est-ce que je fais ?» Voilà. Donc, oui, faut l'entendre. Voilà. Donc, je vous ai dit, on passe dans l'invisible. Hein. Oui, elle est à côté de moi. On peut... voilà. Donc, on pourra en reparler parce que c'est un fait. La plupart des gens qui vivent ces états modifiés de conscience peuvent avoir accès à ça. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est là. Donc, le respect, c'est important de l'avoir jusqu'au bout.
Philippe Grimbert.
Ce dont devrait s'inspirer beaucoup de séries américaines où dans la salle d'autopsie, on plaisante, on s'assied quasiment sur la table de dissection. C'est vrai que ce que vous dites là me fait penser à ça. Mais pour en revenir à Axel Kahn, bon, d'abord, évidemment, une leçon de dignité, d'absence totale de pathos, ce qu'on pouvait craindre dans un entretien qui peut être le dernier, quand il vous dit au revoir, François Bunel, c'est vrai qu'il y a une émotion... Très grande émotion, justement, parce qu'il n'y a pas de pathos. Il nous donne une leçon de vie magnifique, et j'allais même dire une leçon de mort magnifique. Et ce qui me touche beaucoup plus encore en tant que clinicien, mais en tant qu'homme aussi, c'est l'injonction paternelle et ses effets positifs. C'est-à-dire que cette phrase paternelle le lance dans la vie d'une façon extraordinaire, et je suis bien placé pour savoir, avec des jeunes gens dont je me suis occupé, à quel point une injonction négative peut détruire une vie, une phrase peut détruire une vie. On ne fera rien de ce garçon. Qu'est-ce que tu n'es vraiment pas capable de... Des phrases qui, comme ça, sournoisement, font leur chemin à l'intérieur du psychisme et aboutissent à l'échec, en obéissance à une injonction maléfique. Or là, l'injonction est positive et elle devient ce qu'il appelle le fil d'Ariane, ce que je trouve magnifique, parce qu'en effet, le labyrinthe, l'image du labyrinthe nous plaît beaucoup. Son père le conduit dans le labyrinthe grâce au fil d'Ariane et il ne va pas en trouver la sortie parce qu'il n'y en a pas de sortie dans le labyrinthe. Il n'y a jamais de sortie dans le labyrinthe. En revanche, il va savoir s'y retrouver.
Et le bien dans tout ça, c'est le titre du livre d'Axel Kahn, publié aux éditions Stock. Vous évoquiez l'invisible, alors allons-y, Corinne Sombrin. Je rappelle un peu les faits et j'aimerais que vous nous les racontiez, ce que vous avez ressenti, bien sûr. Vous êtes ethnomusicologue lorsque vous partez en Mongolie, il y a maintenant 20 ans, et que vous découvrez là-bas la transe chamanique. Depuis cette année-là, depuis 20 ans, vous travaillez aux côtés des scientifiques pour étudier la transe, mais comme discipline à part entière. Vous montrez comment les neurosciences, on va en reparler avec vous, Philippe Charlier, ont fini par établir que la transe n'était pas une pathologie, c'est-à-dire un simple délire, hein, pour le dire autrement, mais bien un potentiel cognitif. Votre livre, La diagonale de la joie, retrace ce cheminement, ce combat également. C'est un livre qui se lit, alors j'allais dire, comme le journal intime d'une jeune femme que l'on voit évoluer, que l'on voit vivre, aimer, souffrir parfois, qui découvre le chamanisme chez les Mongols, mais aussi les légendes apaches, les modes de vie des Indiens d'Alaska ou d'Amazonie, et puis bien sûr les investigations de l'imagerie cérébrale auxquelles vous vous êtes prêté. C'est un véritable élargissement hein, du champ de la connaissance que vous nous proposez, qui allie la science, la littérature, la poésie. Racontez-nous d'abord, Corinne Sombrin, comment vous avez découvert la transe chamanique, et surtout, comment vous avez découvert que vous pouviez la pratiquer.
Je dois faire un reportage pour la BBC il y a 20 ans, pour la radio, et on me demande de faire découvrir à l'auditeur les mystères mongols, et je suis le candide. Voilà, je fais pour l'auditeur la découverte de ces mystères mongols. Donc, dans ces mystères
aucune
mongols...
Aucune prédisposition pour le surnaturel?
Ben non, plutôt agnostique d'ailleurs. Et donc l'idée, c'est d'aller rencontrer ces gens-là. Et derrière ce mot, les mystères mongols, il y a le chamanisme, bien sûr. Donc je ne sais pas grand-chose à l'époque de ça, sinon que les chamans accèdent à un état qui s'appelle la transe et qui s'induit par le son d'un tambour. Ce qui m'a le plus étonné dans le premier contact avec ce peuple, et ces peuples-là en général, c'est le rapport à l'invisible dont on parlait tout à l'heure. Chaque fois qu'ils doivent prendre une décision, ils ne vont pas la prendre tout seuls comme nous, ils vont demander à ce qu'ils appellent le monde des esprits. Alors pour accéder à ce monde des esprits, ils utilisent le chaman utilise ce tambour qui va le mettre en transe. Et cet état de transe, disent-ils, lui permet d'accéder au monde des esprits qui va leur donner des informations que le chaman va ramener à la communauté.
Parce Donc
que
la transe a un but précis.
C'est ça, c'est ramener des informations à la communauté qui vont être utiles à la communauté. Et donc c'est vraiment l'entrée en contact avec ce monde des esprits qui va être plus intelligent que les humains en quelque sorte, parce que ces esprits, d'après eux, sont les garants du maintien de l'harmonie dans le monde. Et si on n'écoute pas leurs conseils, évidemment, si on prend des décisions individuelles, on va faire des choses qui sont dissonantes par rapport à tout ça.
Mais alors comment la candide, un peu agnostique, un peu sceptique, voire ironique, hein, parce que vous racontez avec beaucoup d'humour, devient-elle tout à coup elle-même ? Allez, on ne va pas dire une chamane, mais en tout cas une jeune femme qui rentre en transe, qui communique avec les esprits, et à qui on dit, mais en réalité... tes ancêtres t'ont prédisposé à devenir chaman.
Oui. C'est la première écoute de la cérémonie chamanique. Donc le chaman commence à jouer du tambour et là, ça fait un effet auquel je ne m'attends pas, bien sûr. Je commence à trembler, à bouger et surtout à me mettre à hurler comme un loup. J'ai l'impression vraiment que j'ai un besoin irrépressible de faire tout ça, mais quelque chose que je n'ai pas décidé de faire. Ça se fait tout seul. Voilà. Et donc, une fois cet épisode, qui me paraît plutôt bizarre, est terminé, le chaman discute avec cet ami mongol qui m'a emmené là-bas. Et là, il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était chamane ? Voilà. Parce que d'après lui, si le son du tambour m'avait fait cet effet, avait provoqué une transe, parce que c'est ce qu'il a appelé à ce moment-là une transe, eh bien, ça veut dire qu'elle a reçu l'étincelle chamanique et qu'on doit la former au rituel chamanique. Voilà.
Que ressentez-vous pendant cette transe et que voyez-vous ?
Alors, je ressens vraiment le besoin irrépressible de hurler, mais ce qui sort, c'est des sons de loup. Je m'agite, j'ai envie de ce tambour, j'ai besoin de ce tambour. Le son de ce tambour est pour moi quelque chose dont je dois m'abreuver. Je saute sur le chaman, ça, j'en parle pas beaucoup, mais je saute sur le chaman pour lui prendre le tambour. On se bat tous les deux. Et il finit par m'envoyer bouler. Et mon ami qui assistait à ça m'a dit, mais il t'a envoyé un coup de poing dans l'estomac. J'ai cru qu'il t'avait tué parce qu'il t'a fait faire 3 mètres en arrière, mais il n'arrivait pas à décrocher Kiki du tambour. Voilà. Et donc, ma seule réaction à ce moment-là, qui était apparemment très violente dans le geste du chaman, ça a été c'est tout, pas de douleur.
Rien.
Rien, juste un truc rigolo finalement. Ouais. Tiens, voilà, on s'est bien battu, on s'est bien amusé. Et c'était tout. C'était tout. Voilà. Donc après, ils ont discuté pendant quelques temps, en disant bon, on doit la former la chose là, et on doit la former. Quand je suis rentrée en France, parce que ça m'intéressait pas, moi, franchement.
Ça vous intéressait pas du tout de venir chamane.
Ben non. C'était pas du tout ce que j'avais prévu. J'étais pas là pour ça, et je comprenais pas du tout à quoi ça servait encore à l'époque. J'avais vécu un état de transe qui était vraiment étonnant, et ce que j'ai voulu, c'est en rentrant en France, expliquer ça à mon médecin, parce que c'est que ça fait peur quand même. C'est bizarre de réagir comme ça. Pourquoi ma société à moi, soi-disant savante, ne m'avait pas expliqué que le son du tambour allait pouvoir me faire un effet pareil ? J'avais 40 ans.
C'est une vraie question qu'on a envie de poser aux savants, Philippe Charlier. Pourquoi les scientifiques, vous qui en êtes l'un des purs produits et représentants...
Mon voisin aussi.
Votre voisin aussi, d'une certaine manière, parce que vous avez été psychologue, Philippe Grimbert, et vous avez travaillé, vous le disiez tout à l'heure, avec les enfants autistes, notamment.
Oui, absolument.
Mais pour quelles raisons les scientifiques, la majorité d'entre eux, il y a encore quelques années, refusaient-ils d'étudier ce qu'il ne pouvait comprendre?
Je pense qu'on est dans un monde qui est extrêmement cartésien, extrêmement pragmatique, et il y avait une étiquette de troubles psychologiques, de troubles psychiatriques qui était assez communément posée.
Donc par exemple, ce qu'elle vous raconte, vous écrivez de Corinne chez les dingues.
Moi, absolument.
C'est ce que m'a dit mon psychiatre quand je suis rentrée en France. Pas mon psychiatre, mon médecin. Mon médecin qui m'a donné, du livre, qui m'a donné la carte d'un psychiatre, parce qu'il a dit, il faut quand même vérifier, je lui ai raconté mon histoire. Voilà.
Par moments, c'est vrai par moments que vous êtes dingue, mais vous en revenez.
C'est ça.
C'est ça qui était étonnant. Parce que quand on est dingue, on le reste. D'abord, on est dingue.
On ne devient pas psychotique.
Mais il y a ce que vous décrivez, il y a des moments qui semblent en effet de l'ordre de la psychose ou de l'hystérie.
Absolument.
Sauf que
Absolument.
Vous en sortez comme vous y êtes entré.
C'est la différence. C'est que quelqu'un qui aurait une pathologie ne pourrait pas en sortir, ou difficilement. Et là, j'en sors. Voilà. Et c'est ce, que ce qu'on étudie aujourd'hui avec les psychiatres.
Hein. Et les individus cartésiens, pragmatiques, occidentaux, au sens général du terme, comme vous, il y en a d'autres. Mireille Aïn, par exemple, qui a publié récemment son expérience de vie dans le vaudou. Elle a été prise par le vaudou et par le condomblé. C'est une bibliothécaire qui était au travail de l'Institut français de Port-au-Prince. Et elle a été, comme vous, happée, entre guillemets, par, non pas une autre religion, mais une autre façon de voir le monde, qui lui correspondait et qui, pour reprendre une expression qui est exactement la vôtre dans cet ouvrage, qui entrait en résonance avec elle.
Oui, mais moi, je n'ai pas du tout été happée par ce monde-là. Je n'ai pas du tout été happée. Ce
qui
m'intéressait, c'était, voilà, mais c'était le vécu de la transe que je trouvais, après la surprise passée, évidemment, que j'ai trouvée fascinante dans ce vécu où tout d'un coup, je ne sentais pas la douleur. J'avais, enfin, pratiquement pas. J'avais beaucoup plus de force. J'avais l'impression...
Est-ce que vous aviez des perceptions qui étaient accrues, que vous avez senti un élargissement du champ de conscience, peut-être de connaissance aussi.
Alors ça, c'est venu petit à petit. Il a fallu bosser un peu quand même. Hein. Mais au départ, c'était un perçu de Corinne qui était complètement différent. C'est quelque chose que je ne connaissais pas de moi. Donc ça a éclairé des territoires que je ne connaissais pas du tout. Et juste ça, c'était intéressant, voilà, déjà.
Ce que j'ai trouvé remarquable dans votre livre, c'est que quand vous rentrez, vous êtes sceptique, mais comme le lecteur peut l'être. Parce que là, ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, c'est une théâtralisation. Sauf que vous découvrez... Et vous battez pour te faire découvrir que loin d'être que de la théâtralisation, c'est aussi un processus cognitif. À un moment, tout de même, les psys vous prennent pas trop au sérieux, font des tests sur vous, mettent 6 ans avant de publier une étude qui, quelque part, j'allais dire, vous disculpe d'être dans la fraude ou d'être dans le délire. Est-ce que vous avez ressenti à un moment une perte de confiance vis-à-vis de cette société ?
Ah mais complètement, complètement, tout le temps. Tout le temps, il y avait un tel scepticisme...
Moqueur.
Moqueur, bien sûr, mais il faut bien penser qu'il y a 20 ans, hein, la transe était considérée en fait, dans ces populations comme une théâtralisation, c'est ce que vous avez dit. Donc pour eux, ça n'existait pas. C'était, on faisait, dans le cadre d'un rituel, on faisait les gestes qui étaient le cadre du rituel. Mais moi, je voyais bien qu'il y avait un véritable effet de cet état de transe. Donc, je n'ai eu de cesse d'essayer de rencontrer des chercheurs, des scientifiques, pour qu'ils fassent un EEG de mon cerveau, pour voir si, effectivement, cette réaction était due à une modification du fonctionnement cérébral. Ce qu'on a démontré grâce à Pierre Etévenon, déjà, qui a accepté de me rencontrer pour que je lui fasse une démonstration. Et après, qui m'a dit, bon, ben, si tu veux qu'on fasse un EEG de ton...
Alors un EEG, il faut rappeler.
Ah oui, un électroencéphalogramme, voilà. Bien sûr, bien sûr. Il va falloir.
On va vous mettre des électrodes.
Voilà, c'est ça.
Vous faire rentrer.
C'est ça.
Dans un caisson et pratiquer des IRM.
Mais pour ça, il a fallu se passer du tambour.
Alors c'est là que ça devient passionnant.
Mais
c'est-à-dire que tout à coup, ça n'est plus la transe chamanique, c'est une transe auto-induite par votre propre volonté. J'aimerais que vous nous expliquiez. Est-ce que ça signifie que vous pouvez, quand vous le souhaitez, déclencher la transe ?
Tout à fait. Tout à fait. Tous les transeurs qu'on a formés, donc on a formé beaucoup de médecins, psychologues, chercheurs, tous sont capables de faire la même chose. Voilà. Donc j'avais vraiment, vraiment, une fois qu'on a démontré...
Vous passez du son du tambour, passez du masque...
J'étais obligée parce que j'étais vraiment motivée par faire ces recherches. J'en avais marre qu'on dise que j'étais un peu, un peu folle. Donc j'avais besoin de savoir si j'avais un cerveau sain ou pas, après tout. Hein, voilà. Et de montrer qu'il se passait quelque chose forcément dans le cerveau. Donc ça a été démontré. À partir de là... on a démontré que j'avais un cerveau sain et dans la norme. Donc, il n'y avait pas de raison que la transe ne soit pas un potentiel qu'on avait tous en nous. Voilà, c'était la première intuition.
Tous en nous. C'est-à-dire que ce que vous suggérez, ce que la science suggère, Philippe Charlier, corrigez-moi si je me trompe à la lecture du livre de Corinne Sombrin, c'est qu'en réalité, nous sommes tous en sommeil de transe, mais que nous pourrions, soit parce qu'il y a un tambour et une certaine rythmique, soit parce que nous apprenons à l'auto-induire, nous pourrions découvrir la transe.
C'est ce que Corinne écrit, c'est ce qui est écrit par d'autres. Ce n'est pas encore une notion qui est acceptée par toute la communauté scientifique. Cette idée de « nous sommes tous égaux quasiment devant la transe » au sens de « nous pouvons tous entrer en transe, soit spontanément, soit par un intermédiaire physique, tambour, clochette, hochet, etc. » malheureusement, ça reste encore, sans du tout aucune méchanceté, ça reste encore à démontrer par d'autres études, d'autres civilisations, d'autres... Parce que quand on parle de caractère universel, universel, c'est toute la surface de la Terre. Donc, il faut vraiment que l'échantillon soit significatif, il faut vraiment que ça soit répété par d'autres études. D'où l'intérêt de ce que vous avez lancé, si on peut dire, de collaboration avec des scientifiques, autant des sciences humaines, ethnologues, anthropologues, et aussi des sciences fondamentales, dans les neurosciences, en l'occurrence. Oui.
Alors, cela dit, vous écrivez tout de même, page 144, qu'il y a une explication au fait que tout le monde ne puisse pas le faire. Je vous cite. « En fait, le cerveau est une feignasse. Il ne va pas développer ou entretenir des capacités dont il n'a pas besoin. Oui. » Est-ce que ça veut dire, soyons extrêmement précis, et pardonnez-moi de plonger dans la biographie, mais vous avez oublié un détail. Et ça, c'est intéressant, et je pense que Philippe Grimbert l'a noté, parce que c'est le détail de son roman. Oui. Il y a deux choses qui vous ont permis de rentrer en transe.
Bah oui.
D'abord, une expérience de mort immédiate que vous avez faite à l'âge de 2 ans,
et puis
un deuil.
Et puis un deuil, bien sûr.
Oui. Un être très, très proche, un amour.
Oui, bien sûr. Mais dans les recherches...
Pardonnez-moi, mais juste pour rester sur ce sujet, est-ce que ça veut dire que ceux qui peuvent réveiller en eux la transe sont ceux qui ont connu des états émotionnels ou neurologiques extrêmes?
Ben, un choc émotionnel peut nous faire basculer dans un état modifié de conscience parce que c'est une façon de supporter le choc. Voilà, donc il y a un phénomène de dissociation léger, tout léger, qui nous permet de voir et de prendre de la distance par rapport au phénomène qu'on est en train de vivre et au choc psychologique qu'on est en train de vivre.
J'ai une question, si vous permettez, qui va vous paraître un peu brutale, mais ce que vous évoquez dans une culture avec le rapport aux esprits, le fait de pouvoir faire en sorte un conseil quant à un mode de vie, quant à des décisions à prendre dans une certaine société, oui. Mais ici, c'est pour ça que je parlais de tout, à quoi ça sert ici la transe? Comprenez bien pourquoi je vous pose cette question brutalement.
C'est à quoi ça sert. On est vraiment dans la société du profit, donc il faut que ça serve à quelque chose. Voilà. Donc je vais répondre juste ça pour l'instant, parce qu'avant de savoir à quoi ça sert, il faudrait comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Donc,
cela dit, pardon, mais pour rebondir sur la question de Philippe Grimbert, vous-même, vous posez la question de l'utilité thérapeutique.
Mais oui.
Alors, c'est-à-dire, est-ce que la transe peut atténuer la douleur, atténuer la souffrance, par exemple, d'un mourant, de quelqu'un qui est atteint par une maladie grave, le cancer, par exemple?
Alors ça, c'est une étude clinique qu'on est en train de mener avec le CHU de Liège, dans l'équipe de Steven Loreis, avec Audrey Van de Neuys et Olivia Gosseris, et Charlotte Grégoire. Voilà, j'en reviens là, de Liège. On va former un groupe de 40 personnes à la transe, pour voir si ça améliore leur qualité de vie. Donc ça a été financé...
Des patients.
Des patients, qui ont terminé leur traitement depuis moins d'un an, pour savoir si ça améliore leur qualité de vie.
Est-ce que vous pensez que ça peut le faire, qui avez cette capacité, qui avez vu des chamans en Mongolie, qui avait... Alors, il n'y a pas que la Mongolie, et c'est ça que je trouve passionnant dans votre livre, c'est que vous apercevez très rapidement que, vous qui vous intéressez aux Indiens Apaches, qu'en réalité, les Apaches sont vraisemblablement les descendants des Mongols, qu'ils ont des racines communes, des légendes communes. Quand vous allez faire un tour en Amazonie, vous retrouvez des similitudes entre la manière de s'adresser aux esprits des Indiens d'Amazonie et des Mongols. Enfin, il y a quand même, anthropologiquement, énormément de signes convergents.
Oui, et la question, c'était...
La question est très simple. La question, c'est de savoir, Corinne Sombrin, si vous pensez, vous, qu'on peut utiliser pour soigner...
Ah oui, c'est ça. Oui. Alors on est en train d'essayer de le démontrer, parce que bien sûr, dans les ressentis qu'on a, quand il n'y a pas de pathologie particulière, ça fait du bien, tout simplement, ça améliore la qualité de vie. Mais après, c'est ce qu'on essaie de démontrer. Donc on a commencé 2 protocoles cliniques, toujours avec le CHU de Liège, sur la douleur chronique et sur des patients.
Et vous avez vu des exemples, que ce soit en Amazonie, que ce soit en Alaska,
non.
Que ce soit en Mongolie?
Non.
D'accord. Et ça fonctionnerait comment? Comme une ordonnance ou alors comme un psychanalyste? Quelqu'un qui vous dirait, mais creuse en toi, les questions vont se soulever.
C'est une ressource qui est là en nous, auquel on peut très facilement se connecter et auquel on se connecte naturellement dans les situations d'urgence, par exemple. On parle des états modifiés de conscience, mais il y a 2 grands types d'états de conscience. Il y a ce qu'on appelle les états de conscience ordinaires et les états de conscience modifiés. Donc les états de conscience ordinaires, c'est ceux qu'on pense être notre état normal. Voilà. Et les modifiés font partie dans ces états modifiés de conscience. conscience, le vécu d'une méditation, par exemple, ou le vécu d'une transe. Mais il faut bien comprendre que notre cerveau change d'état de conscience en permanence. Il va s'adapter en permanence à la situation à laquelle on doit faire face. Alors, quand est-ce que la transe va s'exprimer et émerger ? C'est essentiellement quand on a des situations d'urgence, où tout d'un coup, les caractéristiques qu'on vit pendant la transe, qui sont plus de force, moins de ressenti de la douleur, un phénomène de dissociation léger, la perte de la notion du temps, la transformation de la perception du temps, ça, ce sont des choses qu'on vit dans les situations d'urgence, naturellement. Et là, on se rend compte que ça ressemble beaucoup aux états de transe qu'on peut provoquer. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on vit naturellement, de toute façon. Les moments d'inspiration que vivent les artistes, les eurekas, tous ces moments où, tout d'un coup, on n'est plus, focalisé par le mental, on n'est plus envahi par la rumination et par le mental, où tout d'un coup, on s'ouvre à autre chose. Quand on va se promener dans une forêt, là aussi, notre état de conscience change. Quand j'ai un fou rire, il change. Quand je suis focalisée sur une tâche intellectuelle, mon état de conscience change. Voilà. Donc ça change en permanence. Alors c'est quelque chose qui est là, que notre cerveau utilise régulièrement pour faire face à une situation.
J'ai forcément mis en balance avec ma pratique analytique. En vous lisant, ça m'intéresse beaucoup. Et ce que vous vivez à l'intérieur, on a envie de le vivre, hein, ça c'est sûr. Du côté du bien-être et de la communion avec tout ce qui nous entoure. Mais au fond, la psychanalyse a quelque chose de commun avec la transe. Le transfert, ah bon, déjà. Pas seulement. Il y a aussi quand même un rituel, vous l'avez abandonné, mais il y a un rituel, le rituel du divan, de la séance. Il y a le silence de l'analyste, silence accueillant, mais silence. Et il y a aussi un état de conscience modifié qui se produit, puisqu'on demande à l'analysant de renoncer à ce qu'il fait son fonctionnement mental habituel, et ce pari impossible de laisser venir tout ce qui lui vient à l'esprit en dépit de toute logique. Et donc ça provoque, peut-être que si on faisait un électroencéphalogramme à ce moment-là, on verrait aussi que cet état de conscience modifié se traduirait peut-être par des modifications cérébrales.
Absolument.
Qui disparaîtrait dès qu'il sortirait du cabinet, bien entendu. Mais il y a quelque chose qui me semble pas si loin que ça, sauf l'urgence. La psychanalyse n'est pas un traitement d'urgence, ça c'est sûr. C'est un long temps.
J'aimerais aller du côté de la littérature, parce que ce qui est très intéressant, encore plus intéressant dans votre livre, c'est que vous allez chercher Paul Valéry, Eschyle, Carson McCullers, Deleuze, Derrida, Marguerite Duras. Tiens, si on appliquait la transe à la question, vous l'évoquiez, de l'inspiration, même de la création artistique, qu'est-ce que cela donnerait ? Cette phrase de Duras que vous citez, très belle, « Écrire, c'est aller dans ce périmètre où on n'est plus personne ». Magnifique, ça. Ce périmètre où on n'est plus personne, est-ce que c'est celui-là que vous atteignez en transe ?
Bien sûr. C'est tout d'un coup, on se perd. Et c'est la nécessité de se perdre qu'on a perdu, justement, en étant tout le temps focalisé sur la pensée analytique, la réflexion. Et donc, cette nécessité de se perdre, elle fait découvrir de nous des territoires qu'on ne connaissait pas.
Est-ce qu'on crée mieux ? Selon vous, si on est en transe ?
Bien sûr. On a fait un atelier aux Beaux-Arts à Paris avec des étudiants, des artistes. Et on crée mieux tout simplement parce qu'on explore des domaines qu'on n'a pas encore explorés. Donc je leur dis toujours, ce n'est pas pour ça que vous serez géniaux, mais simplement ça va vous permettre d'enrichir la palette de sensations, de couleurs, votre palette de créativité.
Et je vous pose la question sans aucune moquerie, mais on est bien d'accord que c'est sans substance illégale, sans boisson plus ou moins trafiqué.
Oui, c'est ça. C'est vraiment par la volonté. Hein. Voilà,
Par la seule volonté.
C'est quelque chose qu'on a développé et qui marche. On a repéré que c'était à peu près 90% hein, des gens qui accédaient à la transe. Il y a 10% qui...
Je ne sais pas si Philippe Grimbert était dans le même état quand il a écrit Une mauvaise rencontre, mais au moment où le moment où les phrases viennent toutes seules, ça peut être à 10h du matin ou à 2h du matin, on est seul face à notre ordinateur ou notre page blanche, sans substance ou autre chose sauf du Darjeeling, Et là, tout vient et on est totalement isolé. Alors, je ne sais pas si
mais c'est du travail ou c'est de la transe. C'est du travail.
Les deux. C'est-à-dire que on peut être très très focalisé sur une tâche à un moment et puis tout d'un coup, j'imagine le cerveau.
Tout vient. Ça ne peut pas être seulement le travail.
Le cerveau est comme une aurore boréale, donc ça va changer en permanence. Voilà, donc on peut commencer à être focalisé et la focalisation va nous emmener dans un autre état et qui tout d'un coup, faire que tous les romanciers en parlent, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est le personnage qui émerge et qui nous emmène quelque part où on n'a pas eu idée d'aller.
Quand on dit c'est un peu une coquetterie, mais quand on dit ce livre m'a été dicté,
c'est
je ne peux pas pouvoir dire que ça m'est arrivé.
Ça vous est arrivé.
Sans aucune mystique spéciale par rapport à ça, mais je sentais en effet que quelque chose partait, le fil, il n'y avait plus qu'à le tirer. J'étais dicté.
Sauf qu'on oublie, pardonnez-moi, mais on oublie tous là en ce moment, une chose qui est très importante dans le livre de Corinne Sombrin, c'est que la transe, c'est pour aller rencontrer les esprits. Nous dites-vous.
Alors, qu'est-ce que c'est les esprits hein,
voilà. J'allais vous poser la question.
Voilà, ça c'est sûr.
Parce que ça va, pensez bien. Qu'est-ce que c'est les esprits?
Je n'ai pas la réponse. Il est vrai que quand on est en transe, on voit, il y a des personnages, des animaux, on voit des trucs. Voilà. Donc, on peut comprendre que ces populations, n'ayant pas le niveau scientifique qu'on peut avoir aujourd'hui, aient voulu interpréter ça, aient voulu comprendre ce que c'était et mettre une interprétation à ces phénomènes. Donc, ça, c'est un fait, on les voit. Donc, eux ont appelé ça les esprits. Peut-être que nous, on pourra appeler ça des informations. Qu'on baigne dans un océan d'informations et que le cerveau, peut-être, va traduire ces informations sous la forme d'images qu'il a en bibliothèque.
On peut utiliser une formule et une métaphore qui est celle du vaudou, le vaudou béninois. C'est le fa. Le fa, c'est la connaissance universelle. C'est la gnose, on pourrait dire, si on prenait ce terme paléo-chrétien ou néo-platonicien. C'est la connaissance globale, tout simplement. C'est peut-être ça, les esprits. C'est peut-être cette tournure de phrase. C'est le savoir, au sens global du terme.
Oui, et c'est l'accès vraiment à quelque chose de plus grand que nous.
Et bien, la joie, c'est la diagonale de la
mais
foi.
Oui, mais la c'est joie ça, mais, tout ça. Mais c'est ce que provoquent ces états et le vécu de ces états quand on s'est perdu et puis que tout d'un coup, on redécouvre ce qu'on est libre de devenir parce qu'on n'est plus identifié à quelque chose. Et c'est la joie que ça déclenche de pouvoir communiquer avec son environnement parce que les grands intérêts de la transe, je vais répondre, c'est interaction et transformation. Voilà. Et donc transformation de processus internes, transformation de décodage de programmes qui seraient un peu dissonants en nous. Donc ça, vous savez très bien le faire. Et donc la transe va le faire sous la proposition d'images qui vont émerger tout d'un coup pendant une transe et qui vont nous dire pourquoi ça vient là, voilà. Donc ça permet de travailler plein de choses, de transformer plein de choses d'un point de vue personnel, mais aussi l'interaction qui fait que tout d'un coup, comme quand on va se promener dans une forêt, on se sent relié à son environnement, et là, c'est merveilleux, parce que tout d'un coup, on peut vivre une transe simplement devant un arbre en lui demandant « qu'est-ce que tu veux bien m'apprendre ?»
Je retiens le choix, la liberté et la joie. La diagonale de la joie. Corinne Sombrin, c'est aux éditions Albin Michel. Alors, si vous ne savez pas ce que sont les esprits, on va demander à celui qui travaille dessus et qui s'en fait l'historien. Vous connaissiez les chasseurs de fantômes. Et ben voici maintenant le médecin légiste des fantômes. Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel. C'est le titre du nouveau livre de Philippe Charlier. Médecin, donc, on l'a dit, mais ici, plutôt anthropologue en réalité et historien. Comment comprendre les figures de spectres, fantômes, esprits ou autre forme de l'au-delà qui peuple alors à la fois l'imaginaire et puis la littérature qui se nourrissent dans toutes les cultures. Quelle est la part du vrai? Quelle est la part de la mystification et du bidonnage? Et puis surtout, mais pourquoi avez-vous envie de croire à l'au-delà, aux esprits ou aux fantômes? Alors ça, ce sont quelques-unes des questions que vous abordez dans ce livre qui est absolument passionnant. Mais j'aimerais comprendre d'abord pourquoi un médecin comme vous, c'est-à-dire un scientifique formé à l'école de la raison et de la preuve s'intéresse à l'occulte, en l'occurrence au spiritisme et aux fantômes.
C'est justement parce que je suis formé au cartésianisme et au pragmatisme que, au fur et à mesure de toutes ces autopsies que j'ai pu pratiquer, que ce soit des autopsies pour la médecine légale, dans un institut médico-légal, puis des autopsies historiques, puis des travaux en anthropologie autour de la mort, notamment au musée du Quai Branly Jacques Chirac, eh bien à chaque fois, je suis entouré par les défunts, par les morts. Et je suis forcé de m'intéresser à tous les rituels qui entourent les morts. Je me suis intéressé aux zombies, donc les non-morts du vaudou haïtien. J'ai eu envie de m'intéresser également à ces fantômes, c'est-à-dire ces non-morts ou non-entières morts de l'Occident. Et je me suis posé cette question de, non pas, est-ce qu'ils existent ou pas? Vous verrez, c'est... je n'ai pas la réponse de ça.
Vous n'avez pas la réponse, mais vous tournez autour de manière bien à sûr. Nous apporter des éléments quand même.
Merci de l'avoir noté. Mais la question principale qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que les gens ont envie d'y croire? Ouais. Pourquoi est-ce que... À qui profitent les fantômes? Profitez encore. À qui profitent les fantômes?
Pourquoi est-ce qu'on a envie d'y croire? C'est une question de psychanalyse, plus de médecin. Pourquoi est-ce qu'on a envie de croire? Qu'est-ce qui se fait que nous avons ce désir ou ce besoin de nous raccrocher à l'idée que l'être cher, celle qu'on aimait, celui que nous aimions et qui a disparu, peut nous parler?
Parce qu'il y a quelque chose d'insupportable dans l'idée même de la mort, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas se la figurer, qu'on ne peut pas vraiment la nommer et qu'il faut tresser un fil, une corde entre ceux qui nous ont abandonnés et nous. C'est insupportable.
Est-ce du déni, docteur?
Oui. Je vais vous répondre oui.
C'est grave, docteur?
Mais non, ce n'est pas grave, c'est naturel, c'est pathétiquement humain.
D'accord.
Mais c'est aussi une question d'anthropologue. C'est la question de qu'est-ce qui fait le mort? Est-ce que c'est l'oubli? Est-ce que c'est l'éloignement? Est-ce que c'est l'invisibilité? La disparition? Voilà. Et pour résoudre chacun de ces manques pour la communauté des vivants, eh bien, on va avoir de nombreux artifices ou de nombreuses explications ou de nombreuses façons de penser la mort. Les fantômes en font partie.
Je m'autorise une question qui est celle que vous ne posez pas parce que vous parlez beaucoup de vous, Philippe Charlier, sans rien dire, à l'inverse de Corinne Sombrin qui fend l'armure. Est-ce que vous croyez, vous, Charlier, Philippe, que la personnalité survit à la mort?
C'est vrai que je suis sur un divan.
Que l'on continue d'exister au-delà de la tombe?
J'ai tendance à croire, à l'inverse d'Axel Kahn, que pour moi, la mort n'est pas une fin. J'aime me nourrir d'autres cultures, le vaudou béninois, le vaudou haïtien, le christianisme, le bouddhisme, le confucianisme. Mon épouse est d'origine chinoise et elle m'enrichit beaucoup par cette façon de penser les ancêtres et l'autre monde, ma belle famille. Et j'ai tendance à croire, oui, que la mort n'est pas une fin. Ça n'est pas fondé sur mon expérience personnelle. Je n'ai pas d'expérience de l'au-delà. J'ai beaucoup d'expérience de la mort. D'origine professionnelle et malheureusement un peu personnelle, mais c'est un enrichissement, c'est une façon décuplée de sentir la vie, de vivre sa vie et de vivre la vie des autres que de penser que la mort n'est pas un anéantissement total.
Pour quelles raisons les morts communiquent-ils avec les vivants? Est-ce que c'est pour nous alerter, pour nous prévenir, pour nous encourager? Oups. Pour que nous fassions l'offrande qui leur permettra de rejoindre tel nirvana ou tel paradis?
Un peu tout ça. En fait, le mort, quand il intervient sous la forme d'une flamme du purgatoire, sous la forme d'un fantôme, d'un revenant, parfois même d'un vampire, eh bien, c'est parce que soit il y a une injustice, il est mort trop tôt, trop vite. Des humains lui ont fait du mal, l'ont assassiné. Et il veut que justice post-mortem soit rendue. Ou alors, c'est un mort qui nous veut du bien, vous savez, Harry, cet ami qui nous veut du bien, là c'est un peu ces fantômes qui nous veulent du bien, ils veulent nous mettre sur la voie. Ce sont un peu des esprits, ce sont des sages qui sont dans l'autre monde, qui savent ce que c'est que le purgatoire, qui savent ce que c'est que l'enfer ou le paradis, et qui veulent sauver ceux qui leur sont proches, en leur disant, écoute, moi, j'ai pas eu un chemin tout à fait droit, je n'ai pas été un bon homme, eh bien, je vais te guider et rectifier. C'est un peu une sorte de ars moriendi, une façon de bien mourir, autrement dit, une façon de bien vivre pour ne pas ensuite tomber dans les enfers.
Alors vous racontez, hein, notamment tout au long du 19e siècle, comment cette fascination pour l'invisible et l'au-delà a mené les uns et les autres, parfois des savants, souvent des écrivains, on va en parler, à s'intéresser aux fantômes. Mais vous notez aussi une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que la plupart du temps, ce sont ces fantômes qui se manifestent. Or, nous n'avons eu de cesse, nous les vivants, de vouloir rentrer en communication avec eux, quitte à aller inventer des machines pas possibles. C'est le sujet du livre de Philippe Grimbert, qu'on ouvrira tout à l'heure. Comment se fait-il que cette communication soit toujours à sens unique?
Elle est à sens unique parce qu'on n'est pas certain déjà de la réalité de cette communication. Dans l'Antiquité, dans l'Égypte pharaonique, on écrivait des lettres pour les morts, pour leur demander d'agir, leur demander des choses. Mais les morts, on n'est pas certain qu'ils entraient en communication avec nous. Dans l'Antiquité grecque, il y avait ce qu'on appelait des nécromantéon. Vous descendiez dans des sanctuaires après une purification, et là, avec des... notamment à Mantinée, vous en avez un, qui est toujours visitable si vous êtes un touriste, et vous descendez dans ces dans ses profondeurs. Et là, avec des volutes de fumée, vous pouviez interagir avec le mort parce qu'il y avait un problème à résoudre. Toujours cette idée du problème à résoudre. C'est jamais gratuit. Mais...
Également, et Corinne Sombrin les cite, il y avait également la Pythie qui était très importante, même si elle donnait la parole des dieux.
Ce n'était pas les morts, en effet. Oui. C'était Apollon qui parlait à travers elle. Il n'y avait pas cette idée de défunt. C'était un dieu directement qui rendait dans un langage incompréhensible. Personne ne comprenait la Pythie. Je ne sais pas dans quel... C'était peut-être un ululement de loup, mais il y avait un prêtre à côté qui traduisait, parce que c'était absolument incompréhensible.
En tout cas, il y a toujours eu des intermédiaires, des médiums, des médias entre les morts et les vivants.
Que ce soit un papier, que ce soit un prêtre ou autre chose, oui, le mort n'apparaît jamais directement. Il y a toujours un artifice, un intermédiaire. Oui.
Et alors les écrivains, pour quelles raisons les écrivains, les grands écrivains, et là vous en racontez des histoires qui sont formidables, se sont-ils passionnés pour ce dialogue avec l'au-delà? On pense bien évidemment à Victor Hugo et ses tables tournantes après la mort de sa fille Léopoldine, mais on pourrait citer Walter Scott, on pourrait aller du côté de chez Jules Verne, Arthur Conan Doyle, le fondateur de Sherlock Holmes, qui était absolument convaincu que l'au-delà existait, sans oublier Oscar Wilde et puis tout le roman gothique. Et allez, remontons même jusqu'à Homère, jusqu'à Dante et les autres. Pourquoi les écrivains s'y sont-ils tant intéressés?
Parce qu'il y a la mort toujours qui rôde. Dans Homère, c'est Ulysse qui descend aux enfers, qui creuse un trou et qui verse du sang vif parce que les morts ont soif. Il fait très chaud dans les ténèbres et ils vont là. Et c'est là qu'il apprend la mort de ses proches, etc. Il veut interroger les morts pour savoir comment mener son expédition. Il y a toujours une idée de mort. Quand Conan Doyle convoque les esprits à ses tables tournantes, c'est parce qu'il est entouré par la mort, entouré par les décès qui s'accumulent autour de lui, comme Victor Hugo que vous avez cité. Si Léopoldine n'était pas morte et s'il ne s'était pas ennuyé à mourir sur cette île anglo-normande, peut-être n'aurait-il pas interrogé les morts. Mais honnêtement, quand les morts parlent à Victor Hugo, et là je me tourne vers le psychanalyste, on a vraiment l'impression que c'est Victor Hugo qui se parle à lui-même et qui s'écrit avec la langue d'un autre.
Est-ce que ce n'est pas toujours le cas?
En tout cas, pour Victor Hugo, le Livre des Esprits, ce sont pour moi les plus belles pages de Victor Hugo.
Ah bon?
Ah oui.
Alors quand il écrit, par exemple, parce que Victor Hugo, esprit dont on se dit, c'est génial, d'abord c'est le patron, c'est-à-dire c'est sublimement écrit, mais c'est aussi l'homme de la raison, c'est l'homme des misérables, c'est l'homme de Notre-Dame de Paris, c'est l'homme du Livre des Tables aussi, écrit juste après Jersey, dans lequel je lis ceci, « Tout grand esprit fait dans sa vie deux œuvres. » Son œuvre de vivant et son œuvre de fantôme.
Et oui, l'œuvre créatrice se poursuit post-mortem. Parce que pour Victor Hugo, mais comme pour d'autres, Mark Twain, par exemple, qui a dicté un livre en entier post-mortem, avec des petits problèmes légaux vis-à-vis de l'éditeur et des ayants droit, eh bien oui, on peut même, mort, à l'état de fantôme, dicter encore des pages entières. Inspirer un artiste pour qu'il peigne, par exemple.
Sauf que Mark Twain, vous nous dites, c'est une supercherie.
Bon, Mark Twain, malheureusement, c'est une supercherie, exactement.
Parce que vous faites l'histoire des fraudeurs aussi, l'histoire des guignonnages, l'histoire de ceux... on aurait aimé, certains psychiatres auraient aimé mettre Corinne Sombrin dans ce rang-là. Malheureusement, ce n'est pas possible, tout est vrai. Mais comment expliquez-vous que assez rapidement, il y ait eu tant de supercheries qui n'ont pas été immédiatement dévoilées? Il a fallu du temps.
Parce que la machine s'emballe, en fait. C'est ça le problème, c'est que la machine s'emballe. Certains sont totalement honnêtes et ils font leur petit spiritisme discret, quasiment artisanal. Et puis d'autres, ils voient un marché juteux. Et donc, il y a une sorte d'emballement, que ce soit aux États-Unis, avec ces sociétés du spectacle, littéralement, d'immenses messes qui sont organisées avec des médiums qui attirent des fantômes. Pareil en Angleterre, et puis ensuite en France. L'invention de la photographie spirit, par exemple, est une supercherie dès le départ. On se rend compte...
La photographie spirit, il faut rappeler, Philippe Charlier, ce sont ces vieilles plaques, puisque ça se passe à la fin du 19e, on la voit là en ce moment, et où on voit une tache blanche, ou alors on
voit... Parfois un visage...
Voilà, en surimpression.
Exactement. Et le premier photographe en Nouvelle-Angleterre chez qui survient cette malencontreuse habitude, eh bien on se rend compte qu'en fait, c'est une surimpression accidentelle. Mais il se dit, oh là, c'est génial, je vais pouvoir faire plein d'argent là-dessus. Et à nouveau, la machine s'emballe. Le problème, c'est que ça gâche complètement. Le spiritisme, certainement, une partie a fait ça de façon sincère, de façon entière, et y croyait. Mais malheureusement, le mercantilisme a un peu tué la... cette spécialité.
Vous racontez hein, l'histoire de tous les courants, on découvre l'antoinisme, je ne connaissais pas, le caodisme, la théosophie.
Caodaïsme.
Caodaïsme, pardon. Oui.
Pardon.
Non, vous faites bien de me reprendre, le caodaïsme. Vous connaissez le caodaïsme ?
Pas du tout.
Bah, ça me rassure. Voilà, vous allez tout savoir sur le caodaïsme et l'antoinisme.
Non plus.
Mais c'est passionnant. Et vous allez aussi un peu du côté de ces questions, une fois que vous avez établi l'histoire de ce surnaturel, des questions des écrivains. On est tous amenés, Philippe Charlier, à un moment ou à un autre, à perdre un être cher, un être aimé. Faut-il aller jusqu'à en faire un fantôme? Et si oui, combien de temps? Jusqu'à quand?
Ça peut nous faire du bien pendant un temps qui est celui du deuil. Mais le problème, c'est qu'à un certain moment, ça finit par nous être complètement délétère et par nous détruire au fur et à mesure. C'est pour ça que quelques psychologues ou psychiatres que j'ai rencontrés pour l'écriture de ce livre, malheureusement pas mon voisin de droite, mais ce ne sera que partie remise, m'ont dit que les fantômes peuvent être utiles aux vivants, à condition qu'ils ne finissent pas par nous dévorer. Donc pendant un certain temps, c'est bien, ça nous permet d'accepter la mort, de maintenir encore un tout petit fil avec le défunt, accepter l'idée qu'il a changé d'état, qu'on ne le verra plus, qu'on peut encore entretenir un tout petit rapport avec lui. Et ensuite, par contre, il faut laisser les fantômes partir. Il faut vraiment les abandonner. Sinon, ils nous tuent à petit feu.
Alors, comment passer du...
Ça,
ok, très bien, j'ai compris intellectuellement qu'il fallait le faire, à la capacité de le faire. Et je me tourne vers vous, Corinne Sombrin, parce que ça, vous l'aviez peut-être compris, mais vous racontez dans ce livre qu'il y a eu une expérience, tout de même, où il a fallu, lors d'une transe, que vous voyez... L'être aimé.
L'envie de retrouver l'autre, évidemment. Et c'est bien ça qui m'a conduite à accepter ce
chemin. Vous l'avez vraiment revu ?
Ce chemin, je l'ai revu, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'il est là ou qu'elle est là. Ça veut dire que peut-être que mon cerveau a créé l'image dont il avait besoin.
Est-ce qu'elle vous a vraiment dit vie ta vie ?
Oui, bien sûr. Mais bon, tout le monde pourrait dire vie ta vie. Mais pour moi, ça correspondait vraiment.
Est-ce que c'est vous qui avez souhaité
l'inventer ? C'est possible. Mais peut-être que j'étais à un moment de ma vie où j'étais prête à vivre ma vie. Donc j'ai entendu ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là.
Vous avez fait l'expérience d'Orphée.
C'est ça. Il y a un très joli rituel en Mongolie, justement, parce que là-bas aussi, ils pensent qu'on ne doit pas... Il y a une période de deuil, oui, mais on ne doit pas la dépasser. Et donc, quand vous n'arrivez pas à faire un deuil, pour eux, c'est que le mort a pris votre âme, il l'a emporté. Et donc, vous allez montrer à votre âme le chemin du retour. Et vous craquez les allumettes, qu'on voit dans le film de Fabienne Berthaud, dans Un monde plus grand. Vous craquez les allumettes et vous montrez le chemin à votre âme pour qu'elle revienne, voilà, et pour que le deuil se termine.
Est-ce qu'on peut dire aussi que, de nos jours, dans notre société, la mort nous est, et le cérémonial autour de la mort nous est tellement confisqué qu'il est de plus en plus difficile de faire un véritable deuil tranquille. C'est-à-dire que tous, hélas, nous sommes tous allés à des cérémonies qui en 10 minutes sont expédiées. Merci mesdames et messieurs, la cérémonie est terminée. C'est absolument terrible.
Quand elles ont pu se tenir, hein, on sort d'un an et demi de pandémie où on a pu voir aussi l'impossibilité de se rendre...
Carrément impossible. Beaucoup de fantômes vont surgir. Je crois, parce que le deuil est impossible.
Les rituels sont justement là pour nous aider à avoir une distance nécessaire, accepter le deuil, accepter la disparition. Les rituels sont là autant pour les morts, leur repos, leur paix, que pour les vivants. L'acceptation et la paix également. Et sans les rituels, on est perdu. Ce n'est pas pour rien que ces rituels ont mis des centaines, des milliers d'années à être mis en place. C'est parce qu'ils sont, vraiment bénéfiques. Les abandonner ou les faire de façon totalement fragmentaire est forcément délétère.
Il y a énormément de choses dans votre livre. Un mot, si vous voulez bien, pour conclure sur ce point, page 249, qui me semble important, la culpabilité. Vous reliez la création des fantômes en chacun de nous, à la culpabilité. Le fantôme, écrivez-vous, c'est en réalité l'image projetée à l'extérieur d'une culpabilité intérieure insupportable.
Je pense qu'on a tous quelque chose à se reprocher vis-à-vis de ceux qui sont partis. Soit on ne leur a pas dit au revoir, soit on ne leur a pas dit tout le bien qu'on pensait d'eux. Soit il y a toujours une frustration. Tout départ de quelqu'un, même quand il met du temps à partir, on n'a jamais soit la force, soit le temps, soit la possibilité de dire, de faire, d'agir. Et cette frustration-là, peut-être projette dans notre inconscient ou dans notre vision anthropologique ou ethnologique, eh bien une forme qui est celle du fantôme, qui est celle du spectre, qui vient là, qui tourne autour de nous en attendant qu'on corrige cette erreur.
Qui réclame son dû.
Mais est-ce qu'on le fait ? Dans quel état on le fait ? Est-ce qu'on le fait en communiquant ? Est-ce qu'on le fait sous une forme littéraire ? Est-ce qu'on le fait dans nos rêves ? Est-ce qu'on le fait dans un état autre ? Je ne sais pas. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment cette frustration qu'on essaie de corriger au fur et à mesure. Les fantômes en sont une figure de style.
Voilà, la question est peut-être moins de savoir si les fantômes existent que de comprendre pourquoi nous avons besoin ou envie d'y croire. Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel, peut contribuer à répondre à la question, tout comme la diagonale de la joie, me semble-t-il. Tiens, devinette, avant de plonger dans les enfers avec vous, Philippe Grimbert, puisque, vous voyez, ça se tourne, tous ces livres se relient. Hein,
c'est vrai.
Qui a dit la lecture, c'est l'immortalité à rebours? Pas mal, ça. Umberto Eco.
Excellent.
Et justement, voilà, transition toute trouvée pour vous emmener voir un libraire qui vous proposera du Umberto Eco. Allez, on va en librairie comme chaque semaine, cap sur Saint-Étienne, c'est dans la Loire, et là, Alexandra Charouin-Spankenberg a repris, il y a maintenant 5 ans, la librairie de Paris. Regardez ce qui s'y trouve, portrait signé Inès de la Motte-Saint-Pierre.
Les livres, pour moi, c'est une vraie drogue. J'en ai besoin au quotidien. Si je passe une journée sans lire, je vais être malade. La crise, ça nous a apporté plein de nouveaux lecteurs. On a aujourd'hui des jeunes, des moins jeunes, des gens qui venaient plus du tout, des gens qui n'étaient jamais venus, qui nous disaient « Ah, je me remettrai bien à la lecture. Qu'est-ce que vous allez pouvoir me conseiller ?» Ce qui est très important pour moi, c'est donner accès aux livres à tous. Quelle que soit son origine, quelle que soit sa culture, quel que soit son milieu, tout le monde mérite d'être mis en contact avec des livres. Depuis toujours, on se raconte des histoires et on a besoin de laisser une trace. Le road trip déjanté, c'est Petit suicide entre amis de Paasi Lina, où on va suivre en fait 2 quinquagénaires suicidaires qui se retrouvent au même endroit, au même moment, tous les deux dans la même intention, de se pendre. Ils décident de monter un groupe de suicidaires, parce qu'ils savent qu'en Finlande, il y en a quand même beaucoup, de monter tous dans un bus et de traverser l'Europe. C'est un humour très grinçant, très noir, très caustique. Une petite merveille. Un vrai cri de joie, c'est le prix Alma pour Jean-Claude Mourlevac. C'est quand même le prix Nobel de la littérature jeunesse. Et s'il y a bien quelqu'un qui le méritait, c'était lui. L'ensemble de son œuvre est absolument génial. Ça peut être lu par des enfants, par des ados, par des adultes. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de réflexion. On ne prend pas les enfants pour des imbéciles. Il y a une vraie littérature, un vrai sens du style. Bref, bravo Mourlevac. Un roman qui m'a tiré des larmes dernièrement, c'est « Apprendre à parler avec les plantes » de Auriol. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient d'apprendre le décès soudain de son compagnon. Sauf que, en fait, 2 heures auparavant, il venait de lui expliquer qu'il la larguait, qu'il se barrait pour une autre, et il la plante comme ça. Ce qui fait la subtilité du roman, c'est vraiment ce double deuil entre le deuil de l'amour perdu et le deuil de la personne. C'est vraiment un livre apaisant, en fait, comme un travail de deuil. S'il y a un classique à redécouvrir, ce sont les fables de La Fontaine, mais illustrées par Chagall, parce que ça donne une force supplémentaire à chaque fable, qu'on redécouvre parce que finalement, il y a énormément de fables qu'on ne connaît pas. Et vous ne pourrez plus dire « La Fontaine, je ne lirai plus tes fables ». C'est l'histoire d'une transplantation cardiaque, c'est « Réparer les vivants » de Kerangal. Il y a une scène, moi, qui me donne la chair de poule à chaque fois que j'en parle, c'est quand l'infirmier assure les soins au patient qui est décédé. C'est lui qui va en fait prendre soin du corps et cette scène est bouleversante d'humanité, magnifique. Moi, c'est exactement comme ça que j'aimerais qu'on prenne soin de moi après ma mort.
Voilà, prendre soin des corps, c'est ce dont on parlait avec Philippe Charlier, Corinne Sombrin. Et on va continuer d'explorer la frontière entre les vivants et les morts, entre le visible et l'invisible, avec votre nouveau roman, Philippe Grimbert. Les morts ne nous aiment plus, c'est le titre. L'histoire d'un romancier et essayiste, dont la réputation n'est plus à faire, il est spécialiste du deuil. Mais sa vie bascule lorsque sa femme se tue en voiture. Il rencontre alors un curieux personnage, un personnage qui affirme avoir trouvé le moyen de donner aux inconsolables la possibilité de dialoguer avec leur chair disparue, mais dans un véritable échange grâce aux technologies les plus modernes. En réalité, c'est le mythe d'Orphée que vous revisitez, Philippe Grimbert, en jouant avec nos peurs, et alors là c'est très réussi, avec nos désirs également, les désirs plus ou moins cachés, tous sans exception, y compris les moins purs et les plus inavouables. Rappelez-nous d'abord ce que raconte le mythe d'Orphée chez les Grecs.
Tout simplement, Orphée, désespéré par la perte de son objet d'amour, va tenter de la ramener depuis les enfers. Il va aller voir Hadès pour lui demander de lui rendre sa bien-aimée.
Hadès, le dieu des enfers,
sensible à sa douleur, va lui dire oui. Il se trouve qu'il lui dit simplement, il pose une condition absolue, tu ne te retourneras pas, elle te suivra, tu ne te retourneras pas, sinon tu la perds à jamais. Immanquablement, on sent déjà dans l'annonce la catastrophe s'annoncer. Orphée, apparemment fou d'impatience de revoir sa bien-aimée, se retourne et il la perd à jamais. Évidemment, le psychanalyste, lui, dit...
Il y a une autre version.
Un patient, moi, j'entends ça en tant que psychanalyste comme un acte manqué, ce que nous appelons un acte manqué, c'est-à-dire un acte qui nous échappe et qui reflète notre désir le plus profond. Le désir le plus profond d'Orphée serait donc de renvoyer Eurydice dans les enfers.
Mais pourquoi?
Oui, parce que la douleur...
Il est fou amoureux d'elle.
La douleur absolue que ressent Orphée lui inspire les chants les plus magnifiques.
Oui, là, vous
Est-ce
êtes
que
en
ça suffit comme bonne raison?
Vous êtes en train de mettre le doigt sur l'ego de l'artiste.
Oui, absolument. Mais Paul, mon héros de Les morts ne nous aiment plus, fait une démarche en effet du même ordre. Il va aller retrouver, si je puis dire, son Eurydice, Irène, dans les enfers. Il va la ramener et une mésaventure va s'en suivre. Je ne veux pas trop en dire parce que vous disiez que je tiens un peu les choses. C'est vrai que j'avais très envie d'écrire ce roman un petit peu à la manière d'un thriller. J'adore les thrillers. Oui. Alors évidemment, thriller, suspense, ce n'est pas vraiment ma marque de fabrique. Mais après tout, quand Swann cherche Odette dans tous les restaurants du quartier, il y a un suspense incroyable.
Du suspense, bien sûr.
C'est du Proust. Alors,
j'avais pas encore eu ça. Mais... Parce que 15 ans, on ne m'avait pas encore fait Proust auteur de thriller.
Et ben voilà.
Voilà, merci Philippe Grimbert.
Mais il arrive à nous tenir en haleine parce qu'il cherche une femme dans un restaurant.
Bon, alors il faut quand même qu'on en dise un tout petit peu sur ce que va rencontrer votre personnage. Oui. Mais avant cela, si vous le voulez bien, cette idée, qui est une autre version possible du mythe d'Orphée, qu'un personnage va lui suggérer, et qui consiste à dire il faut apprendre à laisser partir nos propres morts. Qu'est-ce que ça veut dire, apprendre à laisser partir nos morts?
C'est ce que Paul va apprendre au fur et à mesure du récit, c'est-à-dire que...
Que Philippe Charlier disait il y a un instant. Hein.
Oui, mais parce que curieusement, Paul, ce narrateur, psy, un petit peu comme moi, qui me ressemble un tout petit peu... Oui.
Étonnant.
Pure coïncidence.
Puis d'ailleurs, j'ai remarqué une chose, vous n'avez pas écrit beaucoup de romans, ça fait 10 ans que j'attendais celui-là, mais ils s'appellent tous Paul, vos narrateurs.
Oui. Mais c'est une chose étonnante. Je sais maintenant pourquoi j'ai choisi ce prénom de Paul, mais ça a mis très très longtemps.
Pourquoi ?
Vous avez lu Un secret, le frère disparu dont
je
parle
dans Un secret. Pardonnez-moi, on va rappeler pour les gens, c'était en 2004, c'était un roman autobiographique qui racontait
l'histoire de ma famille, en tout cas.
L'histoire de votre famille,
l'héritage.
À l'âge de 15-16 ans,
voilà,
vous étiez juif.
Des amours coupables de mes parents et de la mort du fils de mon père, mon demi-frère, assassiné à Auschwitz. Ce petit garçon que j'appelais Simon. J'ai failli appeler Simon. Et donc j'ai appelé Simon. Vous voyez comme ça me trouble encore d'en parler, c'est étonnant. Et donc je me suis aperçu en lisant récemment un acte de naissance de ce petit garçon dont je ne dirai pas le premier prénom parce que ça reste une pudeur de ma part. Son deuxième prénom, c'est Paul. Je me dis, voilà comment Paul m'a rattrapé en devenant le héros de plusieurs de mes romans, en effet. Alors donc, Paul, le psy, ne peut pas laisser partir son épouse au point de tenter cette expérience complètement folle, fou de douleur qu'il est. Il va se lancer dans cette expérience qui va montrer ses limites petit à petit, mais sous les dehors de quelque chose qui peut sembler presque parfois comique, je veux dire, dans la mesure où le fantôme d'Irène va le persécuter au bout d'un moment. Et c'est quelque chose qui nous renvoie peut-être à la folie de ses inventions. Philippe Charlier parle dans son livre de toutes ces inventions et ces techniques qui permettent de faire revenir les fantômes. La photographie, au départ, n'était pas destinée à faire apparaître des fantômes. On s'en est servi comme ça. Les enregistreurs de son aussi. Au bout d'un moment, on a entendu des voix d'esprit sur des bandes magnétiques.
Le microphone d'Edison.
Alors, voilà. Vous nous racontiez cette histoire, Philippe Charlier, parce que j'ai beaucoup pensé à
la voix de son maître.
Au microphone. Oui. Oui. Edison, qui n'a pas eu le temps d'inventer, hélas, en lisant le livre de Grimbert. Qu'est-ce que c'était le nécrophone?
En fait, le nécrophone, c'est un appareil où il essayait d'enregistrer les sons captés par les morts. Edison ne croyait pas du tout au spiritisme ou autre chose, mais il croyait à la persistance de l'âme. Et donc, lui, il voulait établir un peu comme un téléphone qui puisse parler directement avec les morts et où les morts nous parleraient. Malheureusement, il est mort avant de l'avoir fait. Il a quand même passé un pacte avec son acolyte en disant « Le premier de nous deux qui meurt envoie un signe à l'autre ». son acolyte, son aide, son collègue est mort. Il n'a eu malheureusement aucun signe, mais il n'a pas démérité. Il a continué. Mais le nécrophone n'a jamais été mis au point. On aimerait qu'il le mette au point post-mortem pour aider la communauté des vivants, mais ça n'arrive toujours pas.
Il y a eu le nécrophone. Et puis, il y a aujourd'hui, bien sûr, l'informatique, la digitalisation des visages, ce qu'on appelle l'échantillonnage des voix qui permet de recréer, dans les jeux vidéo, c'est évident, mes enfants m'y ont initié, à mon âge, j'y joue encore parfois, et je suis complètement fasciné par la réalité, le réalisme des visages reconstitués.
Et on va très très loin, il y a aussi les hologrammes.
Oui,
on a vu des hommes politiques.
Le récital de Maria Callas.
Voilà, exactement. Et on nous propose bientôt de faire revivre, comme s'ils étaient des fantômes ou des esprits, en tout cas, grâce à des algorithmes et des logiciels, sous forme d'hologrammes, des chanteurs disparus.
Alors, c'est ce qui m'a lancé dans cette aventure. Et d'une certaine façon, ce livre n'est pas un livre de science-fiction. C'est une fiction et il y a de la science.
En le lisant, je me suis demandé.
C'est pas de la science-fiction.
Voilà, si un jour.
Tout ce qui est dit là-dedans est parfaitement réalisable.
Alors, attendez, ça veut dire quoi? C'est Esprit, es-tu là, version 2.0?
En quelque sorte, oui. C'est pas une mauvaise définition. Mais ce qui est très troublant, c'est de voir qu'on peut aujourd'hui, avec les outils de maintenant, donner une certaine autonomie, un certain libre arbitre à ces créatures numériques.
Oui. Libre arbitre.
Oui, absolument.
Philippe Charlier.
Vous avez parlé de faire parler les morts tout à l'heure. Et vous avez cité la tête d'Henri IV. La tête d'Henri IV est toujours bien conservée. Et on a, depuis son larynx jusqu'en haut, tout son appareil respiratoire. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, sur le plan scientifique, c'est faire parler cette tête.
Retrouver sa voix.
On a tout l'appareil.
On peut trouver sa voix.
On peut reconstituer la voix de façon scientifique de ce personnage, puisqu'on a toutes ces voix aériennes supérieures.
Mais alors, attendez. Admettons qu'on y arrive. Serait-ce un fantôme? Serait-ce un esprit? Serait-ce un revenant?
Non, ça serait une modélisation.
Serait-ce une totale imposture, une fraude?
Alors non, heureusement, ça ne serait pas une fraude, en tout cas pas scientifique ni quoi que ce soit. Non, ça serait une modélisation numérique, on est exactement dans votre thème, modélisation numérique à partir de quelque chose de vrai, d'anatomique.
Alors ce qui est important, je crois, dans mon livre, c'est que mon livre n'est pas technique du tout, c'est que Paul se laisse embarquer dans cette histoire en ne voulant même pas comprendre comment ça fonctionne. Ce que je disais tout à l'heure, des objets qui dont le fonctionnement nous échappe.
Votre personnage dit, je ne sais même pas comment fonctionne mon téléphone portable, mon ordinateur, là on parle d'un nuage, le cloud sur lequel on stocke
quelque chose. Et cet esprit rationnel, ce psy logique, si toutefois un psy est toujours logique, se laisse entraîner dans une aventure absolument folle.
Pour quelle raison?
Parce qu'il est fou de douleur, tout simplement, et que ce grand spécialiste du deuil, tout à coup, a affaire au deuil le plus violent qui puisse lui arriver, et réagit en croyant comme tout le monde. On se demandait tout à l'heure pourquoi les gens croient aux fantômes, parce qu'ils ont envie d'y croire, et que dans le moment de ce qu'on pense pouvoir être une consolation, eh bien, cette croyance, cette crédulité, cette naïveté nous sert.
Oui, vous écrivez page 70 ceci. Nous savons tous que les fantômes existent. Les morts qui nous hantent ne portent pas de suaire, ni de chaînes au tintement lugubre. Ils n'en réclament pas moins leur dû, nos chers disparus, ces spectres exigeants. Qu'est-ce que nos morts exigent de nous?
Ce que Philippe Charlier exprimait très bien tout à l'heure, c'est-à-dire toute cette culpabilité que nous avons en nous de n'avoir jamais fait exactement ce qu'il aurait fallu, de ne pas avoir donné autant d'amour qu'on en a reçu, eh bien c'est ce que nous projetons, parce que ce ne sont pas les morts qui nous le réclament vraiment, c'est ce que nous projetons sur ces personnes disparues en faisant des fantômes exigeants. Alors, si je ne croyais pas aux fantômes, je ne serais pas psychanalyste.
Vraiment?
Vraiment. J'ai affaire sans arrêt à des analysants qui sont envahis et hantés par leurs fantômes. Encore une fois, sans suaire ni chaîne, mais des générations. Vous savez
donc
bien que aujourd'hui encore, on parle
que
de
la mort est le dernier
familiale.
Mot.
Pardon.
Vous refusez que la mort est le dernier mot?
C'est une question difficile, parce que elle l'a tout de même, le dernier mot. Oui, mais il y a moyen, en effet, de se leurrer. En tout cas, Paul rentre dans une erreur totale. Il en jouit pendant un moment d'une façon formidable. Et puis, ça va se terminer autrement. Je ne veux pas trop non plus.
Non, on ne va pas tout dire. On peut dire simplement autre chose. J'ai pensé à ce livre en vous lisant, que beaucoup de nos téléspectateurs vont dire, Le Château des Carpates, de Jules Verne.
J'ai adoré. Il y a aussi comme ça, oui, un fantôme qui réapparaît et avec des projections, avec un trucage magnifique.
On est en 1892, au moment où justement le cinéma va apparaître, où l'électrophone est déjà là et où tout à coup, voilà, on croit que le fantôme n'est autre que, en réalité, l'avancée de la science.
C'est du Méliès presque.
Mais on peut penser aussi au conte d'Hoffmann, hein, l'opéra d'Offenbach et puis la poupée.
Oui.
Comment s'appelait-elle, Olympia?
Oui, Olympia.
Et oui.
J'en parle à un moment parce que Paul.
Est-ce que ça veut dire quand même qu'à chaque fois qu'il y a une avancée scientifique majeure, ça relance la croyance dans les esprits?
Parce
dans
que chaque, chaque invention scientifique est quelque part la satisfaction d'un fantasme archaïque et originaire. Que ce soit le cordon ombilical du téléphone portable, que ce soit même le moyen de locomotion le plus rapide qui permet toujours de rapprocher les corps. Il y a toujours quelque chose sous l'invention et sous la technicité absolue, quelque chose qui satisfait un des besoins fondamentaux fantasmatiques de l'humanité.
Alors du coup, je vous repose la question qui nous réunit ce soir. Y a-t-il une vie après la mort?
Pour moi, il y a la vie de ceux qui restent après la mort de ceux qu'ils ont aimés. Il y a donc une vie après la mort, la vie de ceux qui restent. Et c'est, au fond, il y a une formule qui fait florès en ce moment, c'est qu'on dit « il est allé là où on va après ». Pour dire pudiquement, parce qu'on dit plus il est mort, c'est quelque chose d'un peu obscène apparemment. Donc il est parti, il est allé là où on va après. Mais là où on va après, on le sait. On sait où c'est ce après. C'est les vivants qui nous survivent. C'est la mémoire des autres. C'est les textes que nous leur laissons.
Pour répondre à votre question, je pense que les vivants font beaucoup vivre les morts. Mmh. C'est comme ça que ça se passe.
Corinne, son bras.
Bah, ils en ont besoin, tout simplement. Mais
les vivants,
les deux. Les deux. Et ces vivants ont tellement de mal à se séparer des morts que, bien sûr, ils trouvent tout ce qu'ils peuvent pour essayer qu'ils restent encore un peu avec eux. Mais au travers des états de transe, on peut s'autoriser, en tout cas, à continuer à parler. J'ai continué à parler avec mes morts depuis que je pratique la transe. Et juste sans savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, on arrête de se poser la question. En tout cas, ça nous fait du bien. Voilà. Et c'est vraiment un moyen de continuer la conversation.
Et la littérature est là peut-être aussi pour donner du sens, que ce soit les essais, les livres d'histoire, les romans. On terminera avec une question, car je ne veux pas éventer le suspense du thriller de Philippe Grimbert. Et puis rappeler que justement, les bons romanciers sont ceux qui posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Par exemple, celle-ci, page 55 du livre de Philippe Grimbert. « Est-il écrit que nous devons tous mourir d'une blessure d'enfance ?» dont nous n'avons pas su guérir et qui, sans cesse prête à se réveiller, dort d'un sommeil de chat au plus profond de nos souvenirs. Philippe Grimbert, « Les morts ne nous aiment plus », c'est aux éditions Grasset. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à vous d'y avoir participé, ainsi qu'à Axel Kahn d'avoir témoigné ce soir, d'avoir été avec nous. Nous sommes avec lui aussi. La semaine prochaine, sur ce plateau, Sylvain Tesson, pour un éloge de la nature, du voyage et de la poésie. Et autour de lui, Jean-Pierre Siméon, Catherine Acalda, Olivier Frébourg. Tiens, on va être un peu de la poésie dans le quotidien de chacun. Vous pouvez voir et revoir cette émission en replay sur le site France.tv. Vous pouvez l'écouter également en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. N'oubliez pas la petite librairie tous les jours sur toutes les antennes du groupe France Télévisions. Et nous retrouvons la semaine prochaine, juste après le générique. Connectez-vous sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un fantôme, hein. C'est la question de la grande librairie. Vous y répondez, vous repartez avec les livres de nos invités. Je vous souhaite de très belles lectures et à la semaine prochaine. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.